Chapitre 1. 1 million d'euros dans un sac. Le commissaire s'approche du sac de sport contenant le million et demande au garçon de décliner son identité. Jérôme Forestier.
Jérôme Forestier.
Il y a un rapport avec la banque Dumont et Forestier ? Questionne le commissaire en tirant sur la fermeture éclair.
Oui, c'est le fils unique du banquier Forestier, précise l'inspecteur.
Le commissaire ouvre le sac de sport afin d'en découvrir le contenu. Il se fige quelques secondes, écarquille les yeux et émet un sifflement d'admiration. Puis, il plonge la main et en retire des liasses de billets de 500 euros.
Jérôme, il va falloir nous expliquer comment cette fortune est arrivée dans ton sac de sport, lance le commissaire.
Jérôme est de taille moyenne. Pas très musclé, une sorte de gringalet aux cheveux roux et au visage couvert de taches de rousseur. Des yeux verts très beaux, très pétillants. Des yeux d'Irlandais.
« Combien y a-t-il dans ce sac ?» interroge le commissaire en tournant le regard vers l'inspecteur.
« 1 million, tout juste. »«
Il va falloir nous expliquer, Jérôme, » répète le commissaire d'une voix calme. « On n'a pas pu lui tirer la moindre parole en dehors de son identité. » Et de « c'est pour mon père, je dois le lui porter à l'arrivée de l'avion de Bruxelles à 17h quand il reviendra de sa réunion avec les actionnaires belges », explique l'inspecteur. Il a dit ça 3 fois et puis plus rien.
Et les parents? Ils sont bien partis ce matin pour Bruxelles. Vous avez vérifié?
Oui. Enfin, j'ai passé un coup de fil à la secrétaire du père en disant que je voulais absolument le rencontrer. Ça n'a pas été facile de lui faire cracher le morceau.
Elle n'a pas soupçonné qui vous étiez, au moins. Il ne faudrait pas qu'elle l'avertisse. On ne sait jamais. Il pourrait décider de fuir.
J'ai vraiment fait attention, commissaire.
Et pour l'avion?
Il arrive bien de Bruxelles à 17h, comme l'a dit le môme. Un vol de la European Airlines. Forestier et sa femme figurent sur la liste des passagers. Une équipe les interceptera dès leur descente d'avion et les amènera directement ici.
Un imperceptible sourire s'ébauche sur les lèvres de Jérôme. Mais ni le commissaire ni son inspecteur ne le remarquent.
Parfait.
Pendant ce temps, une collégienne regarde les affiches du Magique Gaumont, le cinéma du centre-ville. Avec des yeux, verts, comme on n'en rencontre que dans les films, éclatant au milieu de ce visage constellé de taches de rousseur. Quelle vivacité dans son regard. Et les cheveux, une crinière rousse qui lui descend jusqu'aux fesses. Charlotte jette encore un œil à sa montre, puis pénètre dans le hall du cinéma d'un pas décidé. Elle se dirige aussitôt vers la caisse. Une place pour jour de frette, s'il vous plaît. Quelques instants plus tard, elle est assise, au dernier rang, en plein milieu.
Je suis aussi bien ici, se dit-elle en attendant le début de la séance. De toute manière, l'avion n'arrive qu'à 17h. Le temps que les policiers amènent les parents et que tout le monde s'explique un peu, l'autre ne sera pas là avant 18h. Inutile que je continue à piétiner dehors.
Elle pense à Jérôme. Que fait-il en ce moment? Tout se déroule-t-il comme prévu? Elle ignore ce qui se passe à l'intérieur du commissariat. Elle pose une main sur son cœur. L'enveloppe qu'elle cache depuis ce matin dans la poche intérieure de son anorak est toujours là. Elle n'aurait jamais imaginé que le contenu d'une simple enveloppe puisse avoir une telle importance.
L'homme au blouson de cuir noir s'assied sur le lit de sa chambre d'hôtel et consulte l'heure à sa montre. 13h45. Dans 3h30, tout sera terminé. Il se prépare avec minutie, justifiant sa réputation de professionnel consciencieux. Il dégaine son revolver, lève le bras. Il a posé un tract électoral contre la lampe de chevet à moins de 3 mètres de lui. Il vise la tête du candidat. Il sourit, satisfait. Il saisit le chargeur, compte les balles et l'engage dans la crosse du pistolet. D'un geste sec, il le pousse jusqu'au bout. Un déclic retentit. 6 balles, c'est 3 fois trop. D'habitude, il ne lui en faut qu'une, rarement 2. Calme parfait, geste millimétré, efficacité maximum. L'homme replace le revolver dans son étui, puis il fixe le visage du candidat, dégaine à nouveau, vise soigneusement et range ensuite son arme. Il est prêt. Un policier apporte un sandwich au jambon et une canette de Coca-Cola. Il l'étend au petit rouquin qui ne tourne même pas la tête.
« T'as pas faim ?» lui demande-t-il.
« Quelle tête de mule ! Si c'était le mien,
commente le second en agitant la main. « Assieds-toi au moins, reprends le premier. T'es debout depuis des heures, tu dois être fatigué. »
Jérôme Forestier reste impassible, les yeux fixés vers un lointain qui se situe bien au-delà du mur. Debout, raide et droit. Immobile comme un panneau stop, muet comme un poisson. D'ailleurs, le commissaire et ses adjoints en ont rapidement eu assez et l'ont confié à la garde de deux sous-brigadiers avant de quitter le bureau.
« C'est vrai, il est énervant ce gosse, rien à en tirer. »
« Tu ne veux pas parler au commissaire ? D'accord, c'est ton affaire, poursuit le sous-brigadier en s'asseyant, le jambon-beurre et le coca dans les mains, sans savoir qu'en faire. « À nous non plus, tu ne veux rien dire ? D'accord, tu n'es vraiment pas ordinaire, toi. Tu restes debout des heures durant, tu ne manges pas, et tu as été arrêté avec 1 million d'euros dans un sac de sport. Qu'est-ce qui t'a pris de cogner et d'insulter les collègues ? À croire que tu voulais te faire pincer ?»
Nouveau petit sourire de Jérôme, toujours aussi discret. Là encore, les policiers ne le voient pas.
« Ses parents vont arriver dans 2 ou 3 heures, ajoute le second. Il va pas mourir de faim d'ici là. Donne-moi le casse-croûte. J'ai pas eu le temps de rentrer à la maison ce midi. »
Chapitre 2. Charlotte.
Jérôme a encore 3 heures à attendre dans ce bureau du commissariat. Il sent qu'il va craquer s'il ne fait pas quelque chose. Il s'assied, puis, bien installé, il décide de tout raconter depuis le début. Donc, imaginez le collège Joseph Conrad le jour de la rentrée, c'est-à-dire il y a quelques mois. La cloche sonne, je gagne la salle de classe, je suis parmi les derniers à entrer. Il ne reste que les places du premier rang, juste devant le bureau du prof. Je m'assieds à côté d'une fille aussi rousse que moi. Elle me jette un coup d'œil et sourit. Elle a des yeux verts, comme moi. J'ai peut-être hérité d'une voisine sympa. Enfin, de toute façon, j'ai l'intention de me faire des copains et je changerai de place à la première occasion. La prof, une jeune femme à lunettes d'une 30aine d'années, nous souhaite la bienvenue, nous explique qu'elle est notre prof principale, puis nous demande de remplir une fiche. Nom, prénom, adresse et tout le tralala. Je m'exécute. Mon stylo tremble un peu. Ma voisine a le geste ferme. Une élève ramasse les fiches et, prétextant qu'ainsi nous nous connaîtrons plus rapidement, la prof les lit les unes après les autres. « Jérôme Forestier ?» Je lève la main. Elle me regarde et hoche la tête. Elle ne me demande rien, mais je lis dans ses yeux qu'elle pense « Ah oui, le petit Forestier, le fils du banquier. » Elle semble sur le point d'enchaîner, ce qui me réjouit plutôt. Je n'aime pas être dans le collimateur. Elle dévisage ma voisine avant de revenir à moi. « Tiens, des jumeaux ?» Ma voisine est aussi surprise que moi. Elle hésite, lève le doigt et bredouille. « Madame, moi, c'est Charlotte Monestier, pas faux. » Mais la prof n'écoute pas. Elle a repris ma fiche et poursuit. « Et vous avez la même date de naissance, bien sûr. » 10h20. Nous sortons dans la cour pour l'interclasse. Je ne sais pas trop où aller. Soudain, on m'attrape par l'épaule. Je tourne la tête. C'est Charlotte. Rigolo, hein, cette prof qui nous prend pour des jumeaux. C'est vrai que Forestier et Monestier, à 2 lettres près, c'est le même nom de famille. Et puis, la date de naissance. Tu es vraiment né le 1er septembre ? Non, le 1er février. Elle a confondu mon 9 et ton 2, alors, avec ses lunettes. Et puis, on n'a peut-être pas une écriture très, très... En tout cas, c'est rigolo. Je la dévisage et renchéris après un court silence. C'est vrai qu'on se ressemble. C'est peu dire. Si elle n'avait pas les cheveux longs et le visage légèrement plus fin que moi, j'aurais l'impression de me regarder dans une glace. On n'a qu'à laisser croire qu'on est jumeaux. C'est marrant, non ? Là, je ne sais pas ce qui me prend, mais je me détends. Et je lui dis sur un ton rieur, « Pourquoi pas ?» Alors il faut qu'on se connaisse un peu mieux. « Qu'est-ce qu'ils font, tes parents ?»« Ben, ma mère reste à la maison, et mon père travaille dans une banque. C'est un des patrons. » Charlotte ne sille pas. J'enchaîne, « Et toi ?» Ma mère aussi est banquière. Enfin,
Elle est secrétaire dans une banque, mais pas celle de ton père.
Petit rire en cœur. Le premier. Ce ne sera pas le dernier.
Et ton père ?
Mon beau-père. Mon père, lui, est mort dans un accident d'avion juste avant ma naissance.
Oh, excuse-moi.
Tu es tout excusé, tu ne pouvais pas savoir.
Alors, ton beau-père ?
Il s'appelle Alain. Il travaillait chez Beau Séjour, la fabrique de pièces auto, tu sais, celle qui a fermé voici quelques mois. Et il est au chômage maintenant.
Quand la cloche sonne, je m'aperçois que je n'ai pas vu le temps passer.
Salut, et à demain !
Me lance Charlotte en m'envoyant une petite bise du bout des doigts. Ça me fait tout drôle. Je la regarde partir sur son VTT vert fluo. Ses cheveux flottent au vent. Je me tourne vers le parking après qu'elle a disparu, au coin de la rue, à la recherche de la safrane grise de la banque. Papa l'utilise souvent. Dumont, lui, ne la prend jamais. Il se dit sportif et se déplace à vélo. Ah, la voilà. Roland est à l'heure.
Comme d'habitude.
À croire qu'il a avalé un chronomètre le jour de sa naissance. Roland, c'est le coursier de la banque. Enfin, le coursier, je devrais plutôt dire l'homme à tout faire de mon père et de son associé. Papa et Dumont lui confient même l'attaché caisse qui sert au transport des documents ultra confidentiels. Il en a choisi le code secret qu'il ne m'a jamais révélé.
Oui, tout le monde l'adore, moi aussi. Il m'a aperçu et quitte le capot de la voiture sur lequel il était appuyé.
Arrivé à ma hauteur, il me lance
« Salut Jérôme, bonne journée.
Donne-moi ton sac. »
Je refuse net.
Roland peine à marcher. Il a eu une attaque de polio quand il était enfant.
« Ouais, bonne journée, super journée. »
Nous sommes maintenant assis dans la voiture. Il tourne la clé de contact. Le moteur se met à ronronner. J'aime le bruit de cette voiture. Une vraie caresse sonore.
Alors, raconte.
Je lui parle des cours, de ma classe, de mes premiers contacts avec les profs qui ont plutôt l'air sympas.
Et ton prof d'histoire, il est comment ?
Je sais pas. Je ne l'ai pas encore eu.
J'espère que ce sera un bon prof.
L'Empire Ottoman, c'est au programme ?
Aïe, danger. Je dois dévier le tir, sinon j'en ai pour un moment.
Roland se passionne pour l'histoire. L'Empire Ottoman, c'est son dada. Quand il raconte la bataille de Lépante ou la prise de Chypre aux Turcs par Don Juan d'Autriche, on a l'impression qu'il y est.
Je ne sais pas. Je me suis fait une copine aussi. Une fille vachement cool.
Il nous est arrivé un drôle de truc aujourd'hui. La prof de français, notre prof principale, nous a pris pour des jumeaux.
Des jumeaux ?
Oui. Mais elle a des excuses. On a presque la même date de naissance et des noms qui ont la même consonance.
On était habillés presque pareil, et comme on était assis côte à côte et qu'on est aussi roux l'un que l'autre...
Et je lui parle encore de Charlotte. La safrane s'arrête à un feu rouge. Roland me regarde, un sourire aux lèvres.
Toi, tu es amoureux.
Hé, Charlotte est une copine. Une simple copine.
Ça commence souvent comme ça.
Chapitre 3. Supporters de choc. 8 mois sont passés. Jérôme assiste à un match de foot avec son père. Ce dernier a longtemps été président de l'équipe locale, l'OR, l'Olympique de Roissy. Il a abandonné l'OR parce qu'il a décidé de se présenter aux élections pour devenir maire de Roissy. Michel Dumont, son associé, est désormais président du club. L'équipe de Roissy est battue. Depuis un moment, l'OR joue moins bien et a perdu plusieurs matchs. C'est une situation difficile, car il faut que l'OR gagne 2 des 3 prochains matchs pour aller en Coupe d'Europe. Dumont souhaite que la banque fasse un effort financier pour acheter de nouveaux joueurs et mieux entraîner l'équipe. Mais le père de Jérôme ne veut pas.
Le lendemain matin, j'arrive au collège à la toute dernière minute. La sonnerie retentit quand je franchis le portail d'entrée. Je cours. Quand j'arrive, tous les élèves sont déjà assis et la prof s'apprête à fermer la porte. Je jette un rapide coup d'œil sur la classe. Un bras se lève. Charlotte m'a réservé une place. Je fais un geste pour lui répondre. La prof sourit et au moment où j'amorce la traversée de la classe, je l'entends murmurer.
« Heureusement qu'il y a la sœur. »«
Salut !» me lance Charlotte. « Tu es en retard !» Mon père discutait avec Roland, ça n'en finissait pas. « Heureusement que je t'ai gardé une place !»«
Merci !»« C'était bien le match ?»«
Bof, on a pris une piquette. »«
Moi, » poursuit Charlotte, « quand je suis rentrée à la maison, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu envie de parler de toi à maman. »
Tu ne l'avais pas encore fait ?
Non. Remarque, Moi, je n'ai jamais parlé de toi à mes parents. Juste une allusion à Roland en début d'année.
Et alors? Qu'est-ce qu'elle a dit, ta mère?
Je te raconterai à l'interclasse, conclut provisoirement Charlotte à voix basse.
Charlotte raconte à Jérôme qu'elle a l'habitude d'appuyer sur la touche bis du téléphone pour savoir à qui sa mère a téléphoné en dernier. La veille, elle a donc appuyé sur le bouton et elle est tombée sur la banque Dumont et Forestier. Bizarre. Jérôme, lui, a lu un article sur le dernier match catastrophique que l'OR a perdu avec un score de 5-2. Pendant ce temps, son père recevait des industriels pour leur expliquer ses projets. S'il est élu maire, il fera tout ce qu'il peut pour qu'un hôpital, un centre de recherche et un ensemble industriel de fabrication de matériel paramédical s'installent à Roissy.
Chapitre 4. Troublante découverte. Charlotte me parle de son père mort dans un accident d'avion.
Je ne sais même pas où c'est arrivé. Au Brésil, je crois. Du moins, c'est ce que maman m'a laissé entendre un jour. Mais je n'ose pas la questionner à ce sujet. Je sens bien qu'elle ne veut pas en parler.
Elle a sans doute encore beaucoup de peine. Il n'était pas marié.
Ça n'empêche pas les sentiments.
Bien sûr. Mais je crois plutôt qu'elle ne veut pas dire certaines choses. Je n'ai qu'une photo de lui, une petite photo que j'ai trouvée un jour par hasard dans un livre de la bibliothèque. Je l'ai prise, je l'ai gardée.
Maman ne le sait pas. Enfin, je le pense.
Comment tu sais que c'est ton père? Au dos de la photo, maman a écrit « Michel et moi ».
Ça ne peut être que lui.
Tu ne me crois pas?
Si.
La photo dont je t'ai parlé, je l'ai apportée. Si tu me promets de ne jamais rien dire à personne, je te la montre.
Charlotte est très émue.
Promis.
Elle sourit, plonge sa main dans la poche intérieure de son anorak et en ressort un petit album au fermoir doré. Elle se rapproche de moi et l'ouvre. Plusieurs photos glissées dans des pochettes en plastique passent devant mes yeux. Puis Charlotte ralentit et découvre la photo. Des mosquées et des dizaines de minarets sur les collines en constituent le fond. Au premier plan, il y a un couple. Une femme, belle, assez grande, élégante, serre le bras d'un homme en chemisette qui porte des lunettes de soleil.
« Je crois qu'elle a été prise à Istanbul », précise Charlotte.
« Il était beau, tu ne trouves pas ?»
Je continue à observer la photo.
« Oui, très. »
Je ne termine pas ma phrase. J'en ai le souffle coupé.
Au début de la soirée, Jérôme regarde la télé avec sa mère. Son père est l'invité d'une émission électorale. Il défend très bien son projet d'implanter un hôpital, des laboratoires de recherche, une unité de fabrication de médicaments et une fabrique de matériel paramédical. Il s'agit de créer 1300 emplois à Roissy.
21h15. Papa travaille dans son bureau. Maman lit. La maison est calme. Je perçois le ronronnement de Zoubi. Zoubi ou Bisou en verlan. C'est mon chat. Il dort sur l'accoudoir du canapé. Maman se tourne vers moi.
Tu auras du mal à te lever de...
Mais un coup de frein suivi d'un bruit de ferraille dans la rue lui coupe la parole.
« Ma voiture !» s'écrie maman en bondissant de son siège. Elle se précipite dehors. Papa sort de son bureau. Je suis en pyjama. Je ne peux pas les suivre.
La curiosité me pousse vers le bureau. Je m'approche de la fenêtre. Dehors, un homme fournit des explications. Il pointe son index d'un trottoir à l'autre. La voiture de maman, une Clio blanche, a l'aile et la portière avant endommagées. À ce moment, quelque chose d'inhabituel attire mon attention. Je viens très souvent dans le bureau de mon père et je le connais par cœur. Par contre, il m'a toujours été refusé de voir l'intérieur du coffre-fort. Ce coffre m'intrigue depuis toujours. Ce soir, la porte est entrouverte. Je jette un coup d'œil vers la rue. Papa et maman discutent avec l'homme qui tient des papiers d'une main et un stylo bille de l'autre. J'hésite. Tant pis. Je me baisse à la manière des Indiens, glisse ma main vers la porte blindée et la tire doucement. Pas de pile de billets comme dans les films, mais des dossiers. Une boîte est ouverte. Au moment de sortir du bureau, papa devait être en train de la ranger. Elle contient 3 liasses de virements effectués en faveur de Claire Monestier. Sur chaque bordereau est écrit « Pour Charlotte ». Je reconnais l'écriture de papa. Je parcours les 2 autres liasses. Le dernier reçu, classé sous le 3e paquet, retient mon attention. Il est daté du jour de la naissance de Charlotte.
Chapitre 5. Le jeu devient réalité.
Mon sommeil cette nuit a été troublé. Je n'ai pas cessé de penser aux événements de la veille. Une vérité aussi probable qu'incroyable me perturbe profondément et la fraîcheur du matin me transperce sans vraiment me remettre d'aplomb. Charlotte m'accueille avec un grand sourire. Elle est déjà arrivée au collège alors que Roland m'a plutôt amenée en avance. « Salut Jérôme !» Elle se penche vers moi et me fait les deux bises habituelles. Pourtant ce matin, rien n'est plus comme avant. Mais elle l'ignore encore. Le poids est trop lourd. Je devrais tout lui dire immédiatement, mais je n'ose pas. « J'ai vu ton père hier soir à la télé. Super ! Ça fait tout de même drôle de voir le père de son meilleur copain sur le petit écran. Tu sais, tu lui ressembles énormément !» Je suis sur le point de lâcher « Et toi donc ?» Mais les mots s'empêtrent dans ma gorge. Charlotte continue. « J'ai voulu que maman le regarde aussi, mais elle avait un dossier urgent à examiner. Elle n'a même pas jeté un œil à l'écran. Comme si voir le père de mon copain Jérôme à la télé n'était pas une urgence absolue. Quand je pense que je suis la copine du fils d'une vedette de la télé, Charlotte aime jouer sur le fil de l'humour quand une situation l'impressionne ou la flatte un peu. D'habitude, j'entre dans son jeu. Elle éclate de son rire léger qui me fait presque mal aujourd'hui. Enfin, tout à coup, c'est plus fort que moi. Je glisse ma main au fond de ma poche et en sors une photo. « Qu'est-ce que c'est ?» chante Charlotte sans se départir de sa gaieté. Je la lui donne sans rien dire. Elle la prend et peu à peu, la gravité envahit son visage. Ses pommettes pâlissent. « Qu'est-ce que c'est ?» « Tu le vois bien ? Une photo ?»« Mais l'homme, on dirait... » Elle se baisse, extrait son album de son cartable et l'ouvre sur la petite photo de son père, d'une main que je devine hésitante. Elle compare les deux clichés. Le sien, celui où il y a ses parents en vacances à Istanbul. Le mien, où mes parents posent sur une plage des îles Chausey. Mon père me tient dans ses bras. « C'est... ton père a un frère ?» bafouille Charlotte, la voix fragile. « Ou alors un sosie ? Ça expliquerait qu'on se ressemble tant. N'est-ce pas qu'on se ressemble ?»« Charlotte, il faut que je te dise tout. » Je lui ai tout dit. Mais ça n'a pas été facile, loin s'en faut. D'abord, je ne savais pas par où commencer, et puis j'ai raconté l'accident avec la voiture de maman. Cela m'a permis d'en venir aux choses sérieuses. Je rêvais de voir de près ce qui se passait, mais comme j'étais en pyjama, je suis allé regarder par la fenêtre du bureau de mon père. Son coffre-fort était ouvert. « Waouh ! Tu as dû mettre la main sur une fortune ?» J'ai découvert un trésor. Mais pas celui que tu crois. « Tu en fais des mystères. Accélère un peu, sinon la sonnerie va t'interrompre. » J'ai trouvé une pile de bordereaux. Tous étaient adressés à Claire Monestier et mon père avait rajouté à chaque fois « Pour Charlotte ». Le regard de ma copine... de ma sœur, à cet instant je n'osais pas me décider, à virer au gris vert. Ses doigts s'étaient crispés sur les clichés. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Sa voix tremblait. « La vérité, Charlotte. Ta photo m'a déjà drôlement troublée hier. Ton père ressemble tant au mien. Je n'aurais peut-être pas essayé d'en savoir davantage s'il n'y avait pas eu cet accident et la découverte des bordereaux. C'est vrai qu'on se ressemble, au point que la prof principale nous a pris pour des jumeaux au début de l'année. » Charlotte en avait tiré la même conclusion que moi. J'avais formulé ce qu'elle n'arrivait pas à dire. Alors, comme papa n'a jamais eu de frère et qu'un sosie est bien improbable, on est sans doute demi-sœur et demi-frère. La prof était près de la vérité.
Dans la safrane qui le ramène à la maison, Jérôme questionne Roland. Il se souvient de la secrétaire des patrons, Claire Monestier. Elle a quitté la banque il y a 12 ou 13 ans. Jérôme vient de gagner une sœur. Le lendemain, Charlotte et moi ne nous retrouvons qu'à la récréation de 10 heures. Pour la première fois de l'année, elle est arrivée en retard ce matin. Tu sais, j'ai si souvent pensé à mon père disparu que je n'ose pas croire à ce qui m'arrive. Tout ce que tu m'as dit hier m'a terriblement secoué. Moi aussi. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai cherché des indices. Comme je n'osais pas interroger maman, j'ai fouiné un peu partout. Alain tirait son CV sur l'ordinateur pour compléter de nouveaux dossiers de demande d'emploi. Quand il a laissé la place, j'ai eu l'idée de chercher dans cette fichue machine. Je me suis discrètement glissé dans le bureau, j'ai mis le PC en marche et je me suis baladé dans les dossiers.
J'ai bientôt trouvé le CV de maman. Je l'ai lu.
Charlotte aspire une grande bouffée d'air. Ma mère a travaillé à la banque Dumont et Forestier comme secrétaire de direction. Elle y est restée 4 ans. Ça confirme ce que Roland m'a dit.
Ah, parce que Roland se souvient d'elle ?
Il se rappelle juste qu'elle était jolie et compétente. Elle est partie quand ? L'année qui a précédé ma naissance. Le jeu des jumeaux devient réalité.
Chapitre 6. La machination. Jérôme a fini ses devoirs. Il est 18h quand Charlotte l'appelle. Elle lui demande de venir la voir tout de suite parce qu'elle ne peut rien lui dire au téléphone.
Un quart d'heure plus tard, je suis dans la chambre de Charlotte et j'ai la curieuse impression d'entrer presque par effraction dans sa vie. Voici encore 2 jours, elle n'était qu'une copine et je n'avais jamais mis les pieds chez elle. Maintenant, elle est ma demi-sœur. Mon existence tranquille de fils unique est bouleversée.
Qu'est-ce qui se passe ?
Depuis que je sais mon père vivant, je ne rêve plus que de le voir en chair et en os. Alors, après le cours de gym à 16h, je me suis précipité ici pour poser mon sac et je suis allé à la banque. Je sais, c'est idiot, mais je n'ai pas pu résister. J'y suis entré comme si de rien n'était. Pourtant, j'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure. Personne ne m'a rien demandé. J'ai rapidement repéré les bureaux de la direction. La secrétaire était sortie, alors je me suis faufilé dans son bureau. Elle n'ose pas dire le bureau de papa. Vide. J'étais déçu. Une autre porte de communication était ouverte. J'ignore ce qui m'a pris, mais je l'ai franchi.
Et tu es arrivé dans le bureau de Dumont.
Je ne le savais pas encore. Et j'en faisais le tour, quand tout à coup, la porte principale s'est ouverte. Je me suis précipité derrière le canapé. J'en étais à me demander ce que j'allais bien trouver comme explication pour justifier ma présence quand j'ai entendu
« Fermez aussi la porte de communication, Bivaud. Il n'est pas là, mais je n'ai pas du tout envie qu'une oreille indiscrète entende ne serait-ce qu'une bribe de notre conversation. »
Bivaud a répondu « Vous avez raison, Monsieur Dumont. Ce serait plus que regrettable. » Jusqu'à cet instant, j'avais seulement peur. Là, je me suis retrouvé au bord de la panique.
Bivaud et Dumont ensemble, ça leur arrive plusieurs fois par jour, il n'y a pas de quoi paniquer.
Oh si ! Et la suite de leur conversation l'a montré.
Les histoires de banque ne sont pas si terribles.
Là, ils ont parlé banque et foot.
Rien d'étonnant, Bivaud est trésorier de l'OR.
Dumont s'est installé à son bureau et Bivaud s'est assis face à lui. Dumont a d'abord parlé d'un certain monsieur Alexis, qu'il avait appelé depuis une cabine publique de la gare. Il a dit que cet Alexis s'impatientait. Qu'il menaçait de tout révéler à la mi-temps du prochain match s'il ne fournissait pas le pactole dans les 48 heures.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Attends, tu vas voir. Dumont a d'abord dit que débloquer une telle somme en si peu de temps n'était pas évident. Apparemment, ils avaient promis cet argent pour la semaine dernière, et M. Alexis s'impatientait vraiment. Dumont a alors parlé de ton père.
Notre père ?
Oui, Dumont aurait déjà essayé de lui dire qu'il fallait mettre la main à la poche, acheter des joueurs à l'étranger. Il me semble me souvenir de ça, l'autre soir à la mi-temps. Possible. Et comme ils refusent, ils sont bien embêtés. Surtout que ce qu'ils veulent vraiment est bien pire et illégal. Ils ont ensuite parlé de caisse noire trop juste. Je n'ai pas tout retenu, mais je me souviens parfaitement de la somme à trouver, 1 million d'euros.
1 million ? Tu es sûr ? C'est énorme.
Avant, apparemment, il leur en fallait moins. Mais M. Alexis aurait justifié cette augmentation en disant que ses joueurs étaient de plus en plus inquiets.
Les joueurs ? Quels joueurs ?
Sois plus clair. Ceux d'une équipe adverse à acheter. Si j'ai bien compris, il doit s'agir des prochains adversaires de l'OR qu'il faut payer pour qu'ils jouent mal.
L'affaire est incroyable. Je m'exclame, c'est impossible !
Hélas, si, je t'assure.
Allez, tricheurs, on n'a pas le droit de truquer les matchs.
1 million d'euros pour acheter les joueurs adverses, ça me révolte. Mais ce n'est pourtant pas le pire. Charlotte et moi avons reconstitué le montage. Dumont veut absolument que son équipe participe à une Coupe d'Europe, condition impérieuse pour qu'il devienne président de la Ligue régionale. Il lui reste une seule chance, que l'OR remporte ses 2 prochains matchs. Le dernier ne devrait pas poser de problème car le club de ma ville va affronter la plus mauvaise équipe du championnat, déjà sûr d'être relégué. Mais pour l'avant-dernier, c'est une autre histoire. Trouver alors qui se cache sous le pseudonyme de M. Alexis est facile. Il s'agit d'Alexandre Spanik, l'entraîneur de l'équipe d'une ville du Nord qui rencontrera l'OR dans quelques jours.
Pour être absolument sûr du résultat, Dumont veut acheter les joueurs adverses. 1 million ! Dumont et le caissier général prétendent seulement emprunter cette somme pendant 1 ou 2 semaines à la banque, en toute discrétion, sans que personne ne s'en aperçoive. Mais comment pourront-ils la remettre ?
L'opération est malhonnête. En plus, Dumont et son complice veulent mouiller papa dans cette affaire, d'abord à son insu, afin qu'il ne flaire pas l'embrouille.
Bivot a découvert l'existence de Charlotte après avoir mené une enquête. Il sait tout, même que Charlotte est née 7 mois jour pour jour avant moi. Ils sont persuadés de tenir papa. Parler de cet enfant naturel à la presse, en pleine campagne électorale, détruirait sa bonne réputation et l'éliminerait à coup sûr. Dumont exultait. Le sale type. Il a même proposé à Bivot de lui offrir sa place de président de l'OR quand il sera devenu celui de la Ligue régionale. Malgré le calme de ma chambre et le rythme régulier de mon réveil rococo, je suis inquiet. Il faut que je trouve une nouvelle excuse pour sortir vers 20h15. D'après Charlotte, Bivot doit prendre l'argent dans les coffres de la banque ce soir. Dumont, Bivot et papa détiennent chacun une carte et un code et on ne peut ouvrir le coffre qu'avec les 3 cartes et les 3 codes en même temps. Il leur arrive parfois de se les passer quand l'un d'entre eux a un empêchement. Papa a une importante réunion électorale à laquelle il doit obligatoirement participer. Il ne rentre même pas à la maison pour manger. Si tout se déroule comme prévu, Bivot lui empruntera sa carte pour une raison ou pour une autre. La remise de la somme pourra s'effectuer demain ou après-demain. Dumont téléphonera à M. Alexis vers 20h30 pour lui annoncer la bonne nouvelle. Charlotte et moi pensons qu'il le fera depuis une cabine téléphonique de la gare, comme cet après-midi. Il faut absolument que nous y soyons.
Chapitre 7. Les menaces se précisent.
L'essentiel est de passer inaperçu. Tu as raison. Ce qu'il nous faut, c'est un déguisement qui nous permette de nous approcher de Dumont sans être repéré. Enfin, toi surtout, parce qu'il te connaît bien. Le tout était de trouver l'idée géniale. Nous voilà devant la gare, équipés comme des champions de roller. Casque, lunettes fluo, large t-shirt, gants et genouillères par-dessus le jean. La panoplie complète. Bien malin celui qui nous reconnaîtrait. D'autant que chaque soir, la place de la gare se transforme en rollerdrome et que nous sommes une douzaine à nous élancer comme des patineurs sur un anneau de vitesse.
« Il n'est toujours pas là !» me lance Charlotte en me doublant. « Il va venir ! On continue à tourner en attendant !»
À chaque passage, Charlotte écarte désespérément les bras. Sous son casque vert et ses lunettes rouges, impossible de la reconnaître. Soudain, elle vire et me rejoint. « Regarde !» Je tourne la tête. Dumont gare son vélo à l'arrière d'un abribus. Puis il se dirige vers une cabine téléphonique. « On y va !» En quelques poussées, on est près des téléphones. Dumont compose un numéro. L'une des portes de la cabine est restée ouverte. Charlotte freine brutalement, fait semblant de perdre l'équilibre, s'arrête et s'assied sur le bord du trottoir. Puis elle examine avec attention les roulettes de son roller gauche. Je m'arrête près d'elle et je m'assieds à mon tour juste devant la porte.
« Je dispose de la somme que vous demandez. Tout est OK. Vous pouvez préparer vos joueurs. »« D'accord. Je comprends. Ils veulent d'abord l'argent. C'est correct. Qui vient en prendre livraison ?»«
Comment cela, qu'on vous la porte à Bruxelles ?»« Pour nous aussi, c'est très risqué. »« Vous croyez que je peux m'absenter de la banque pendant une journée ?»« Tous les risques sont de notre côté. » « Vous ne me laissez pas le choix !»
Charlotte déchausse son roller. Dumont nous a jeté un coup d'œil, mais nous n'avons pas éveillé ses soupçons.
« D'accord. D'accord. Je vous envoie la mallette. Je vous rappelle pour vous préciser le rendez-vous. »
Il raccroche. Il n'est pas content. Il arrache la carte de la fente de l'appareil et la claque plusieurs fois sur le dos de sa main. Il pousse la porte restée fermée, puis... Il se ravise, réintroduit la carte dans l'appareil. Charlotte enfile son roller, se redresse et patine sur place comme pour vérifier le fonctionnement des roulettes. Dumont compose un autre numéro.
« Bivot, il y a un problème. Il faut qu'on se voie. Oui, tout de suite. Je ne peux pas vous expliquer au téléphone. Il faut qu'on trouve une solution, ce soir. Sinon,
Charlotte enlève à nouveau son roller. Et je rejoue les mécaniciens tout en écoutant.
Oui, à la gare. Je vous attends à la brasserie du départ. Il y a toujours du monde, on passera inaperçu.
Dumont raccroche. Il regarde autour de lui, puis se dirige vers son vélo.
Si j'ai bien compris, me glisse Charlotte, Alexis ne veut pas prendre le risque de se faire pincer avec l'argent. Il faut qu'on le lui livre près de chez lui.
Exact. Sauf que, près de chez lui, c'est Bruxelles, et que Dumont ne peut pas y aller lui-même.
Quand le tour de la place est bouclé, nous repassons à proximité de l'arrêt des bus. Dumont achève de cadenasser son vélo à un poteau, puis il se dirige vers la brasserie. Si dans la rue, la panoplie du parfait professionnel de roller était idéale pour ne pas attirer l'attention de Dumont, dans la brasserie, notre accoutrement nous signalerait autant que si nous avions un gyrophare sur la tête.
Il faut laisser les casques, les lunettes et tout notre bazar dans un coin discret, décide Charlotte.
Sans casque ni lunettes, il va me reconnaître.
Moi, il ne me connaît pas, rétorque-t-elle. Tu vois la vieille dame installée à la table voisine de celle de Dumont? Eh bien, je vais m'asseoir à côté d'elle et engager la conversation. Toi, tu gardes les rollers et tout le matériel.
Charlotte sort de son petit sac à dos un béret vert et un t-shirt blanc. Elle passe le t-shirt, puis roule habilement sa longue chevelure et l'enfourne dans le béret. Enfin, elle saisit une paire de lunettes de fillette bien sage. Même si nous nous ressemblons, Dumont aura du mal à faire le rapprochement.
Bivot a rejoint Dumont depuis plus de 20 minutes. Dès que Charlotte m'a quitté, j'ai regroupé toutes nos affaires et je suis allé dans le hall de la gare. J'attends.
Que se passe-t-il dans la brasserie du départ? Je regarde la grande horloge. 21h14. Qu'est-ce que je vais raconter à maman en rentrant? Elle va s'inquiéter.
Charlotte fait irruption dans le hall à 21h22, passablement excitée.
Un vrai salaud, ce Bivot! Comment ton père a-t-il pu embaucher un type pareil?
Notre père.
Oui, notre père. Eh bien, notre père, si ça continue, il va se retrouver dans une mélasse pas possible. Parce que c'est lui qui va porter l'argent à Bruxelles.
Charlotte parle vite. Je ne comprends pas ce que Dumont et Bivot ont manigancé. Je lui prends la main.
Calme-toi. Raconte en commençant par le début.
D'accord, mais tu vas voir, c'est gratiné. Ils ne t'ont pas repéré?
Non. La vieille dame a été super. J'avais peur que son train arrive. J'aurais été obligé de la suivre, mais...
Et Dumont? Il a expliqué à Bivot que les nordistes ne voulaient pas venir chercher le pactole et qu'il fallait dardard trouver un convoyeur pour porter l'argent à Bruxelles. Un convoyeur qui ne se douterait de rien. Bivot l'a laissé parler. Puis il a dégusté sa bière à petites gorgées en souriant. Il énervait Dumont. Au bout d'un moment, il a dit qu'il fallait envoyer Forestier, que c'était la personne idéale. En plus, au cas où il se ferait pincer ou s'il se trouve dans l'incapacité de restituer l'argent à la banque, Dumont pourra toujours l'accuser d'avoir détourné ce million pour financer sa campagne électorale.
Ah, le pourri!
Dumont s'est frotté les mains. Demain matin, il suggérera à ton père,
notre père,
à notre père, d'aller à Bruxelles jeudi pour représenter la banque dans une assemblée générale d'actionnaires belges. Au passage, il lui demandera le petit service de remettre à un correspondant une mallette bourrée d'archives. En fait, la mallette contiendra l'argent pour Alexis et ses joueurs. Dans tous les cas, Dumont et Bivot ne prennent pas de risques.
Je me demande si le mieux ne serait pas de tout avouer à papa. Et puis, non. Sans preuve tangible, impossible de coincer ces deux hommes.
Chapitre 8. L'échange. Jérôme a très mal dormi. Michel Dumont est-il vraiment aussi malhonnête que Charlotte et lui le pensent? Roland conduit Jérôme à la banque où il passe dire bonjour à son père. Ils parlent tous les deux de l'importance des prochaines élections. On frappe à la porte. Dumont pointe le bout de son nez.
« J'ai un petit problème », annonce Dumont, un sourire mielleux sur les lèvres. « J'imagine que ton emploi du temps de demain est assez chargé. »«
Toi, tu as encore pris un engagement que tu ne peux pas tenir. »
« Exact, » répond Dumont. « Mais ce n'est pas ma faute. »«
Un impondérable, » sourit papa.
« Voilà, » poursuit Dumont en s'asseyant. « Demain, à Bruxelles, il y a l'Assemblée générale des actionnaires belges et je ne peux pas représenter la banque, comme prévu. »«
Et tu désires donc que je te remplace à Bruxelles ?»
Je regarde Dumont. Charlotte et moi n'avons pas rêvé. Je suis sûr que dans quelques minutes, il demandera à papa de lui rendre un deuxième petit service. transporter une mallette contenant des archives sans importance.
J'ai vraiment un planning chargé en ce moment, mais il faut que la banque soit représentée. Mylène !
Appelle papa en appuyant sur le bouton de l'interphone. La secrétaire entre dans le bureau.
Pouvez-vous me réserver un billet d'avion pour demain, jeudi, sur Bruxelles ? Ma femme voudra peut-être m'accompagner.
Pouvez-vous le lui demander ?
Si c'est oui, réservez-nous 2 billets, s'il vous plaît.
La secrétaire regagne son bureau.
Merci, dit Dumont. Je garde espoir que les actionnaires belges acceptent l'idée d'une recapitalisation. Ils apprécieront ta présence.
Dumont atteint la porte. Je pense m'être trompé pour la suite des événements quand il se retourne et ajoute.
Puisque tu fais le voyage, est-ce que tu pourrais emporter des archives boursières ? Je les ai promises à un agent de change. Pour lui, c'est assez urgent. Il enverra un coursier les chercher à ta descente d'avion.
D'accord, mais je ne reviens pas à la banque cet après-midi ni demain matin. Donne ta mallette de paperasse à Roland pour qu'il me la porte à la maison.
Le piège a fonctionné et papa est tombé dedans, la tête la première.
Mylène ouvre la porte de communication. Madame Forestier vous accompagnera. J'ai fait 2 réservations à destination de Bruxelles sur la European Airlines. Départ à 8h50. Vol retour de Bruxelles à 16h05. Vous arriverez aux environs de 17h.
Jérôme raconte à Charlotte comment Dumont a fait tout ce qu'il avait prévu la veille et que leur père va donc se rendre à Bruxelles en emportant une mallette pleine d'argent. Mais ça, il ne le sait pas. Les deux enfants ne savent pas comment aider leur père. À 18h, Roland apporte une mallette de cuir noir pour M. Forestier de la part de Dumont. Roland explique qu'il viendra tôt le lendemain et qu'il laissera Jérôme à la banque car il doit aller chercher le courrier. Il le conduira ensuite au collège. Après le départ de Roland, une voisine vient chercher Mme Forestier. Jérôme est seul devant la mallette. Près de la poignée, il y a un boîtier avec 7 roulettes portant des chiffres. Une serrure à combinaison. Comment faire pour trouver la bonne combinaison ? Quand Jérôme comprend que la mallette est celle de Roland, il pense que c'est lui qui a programmé la combinaison. Qu'est-ce qu'il a pu choisir comme chiffre ? À quoi est-ce qu'il s'intéresse ? À l'histoire, bien sûr. À la bataille de Lépante. Jérôme regarde dans une encyclopédie. Bataille de Lépante, le 7 octobre 1571. Les 7 octobre 1571. 7-10-1571. Jérôme essaie cette combinaison. Miracle, la mallette s'ouvre. Jérôme met les liasses de billets tout neufs dans son sac de sport et met à leur place des vieux catalogues dans la mallette.
Comme prévu, papa rentre vers 21h. Pour une fois, nous dînons tous les trois. Je suis tendu. Je n'ose pas le regarder dans les yeux de peur qu'il voie mon trouble.
Veux-tu encore une quenelle ?
Me demande maman.
Non, non, merci. J'ai plus faim.
Il n'est pas en grande forme en ce moment, notre garçon,
dit papa en me posant la main sur les cheveux.
Ce matin déjà, je l'ai trouvé fatigué et tristounet avec ça. On ne l'entend plus. Hé, fiston, tu ne serais pas amoureux ?
Plaisante-t-il. Ne le taquine pas, il travaille beaucoup, tu sais.
M'excuse, maman. Le téléphone sonne. Papa décroche.
Allô ? Qui ? Une amie de Jérôme ? Attends, je te le passe.
Papa amorce son geste, mais ne le termine pas. On insiste à l'autre bout du fil.
Papa sourit, fait un clin d'œil à maman et appuie sur la touche haut-parleur.
La voix de Charlotte résonne dans la pièce. Je pâlis.
Vu à la télévision l'autre jour, c'est génial votre idée d'installer un hôpital.
Merci, merci, répond papa en pointant son pouce vers le ciel pour signifier qu'il apprécie. Si je n'avais que des électeurs comme toi, je serais élu dès le premier tour. Dommage que tu ne sois pas en âge de voter.
Je suis sûr que vous gagnerez. À la télé, vous avez été formidable. En plus, vous allez donner du travail à des milliers de gens.
1300, rectifie papa. Pas plus, hélas.
Charlotte a trouvé un prétexte pour parler à son père. Le jeu est dangereux. Je réagis en tendant la main vers l'appareil pour que papa me le donne le plus vite possible.
Merci. Merci, tu es très gentil, conclut papa. Ne quitte pas, je te passe Jérôme.
J'espère qu'on aura d'autres occasions de parler de votre projet, ça m'intéresse beaucoup.
Oui, merci, je te le passe.
Papa a à peine décollé l'écouteur de son oreille que je lui arrache le combiné et enfonce la touche du haut-parleur pour qu'on n'entende plus Charlotte.
Sauvé. Allô, oui, c'est moi. Attends une seconde. Je monte dans ma chambre, dis-je en rougissant à papa et à maman.
Tu es complètement folle de lui parler comme ça. Il aurait pu se douter de quelque chose.
Mais non, et puis j'en avais tellement envie. Toi, tu ne sais pas ce que c'est de découvrir son père à mon âge. Quelle belle voix grave il a!
Je vérifie que la porte de ma chambre est bien fermée, place ma main devant ma bouche et dis à voix assez basse. J'ai réussi à ouvrir la mallette. J'ai l'argent, il est dans mon sac de sport.
Génial!
Et maintenant?
J'imagine Alexis lorsqu'il découvrira que la mallette ne contient que des journaux. Il va forcément réagir.
Et que peut-il faire à part contacter Dumont?
Bien vu!
Il faut donc qu'on le surveille, toi à la banque, moi en face de chez lui. J'emporterai le téléphone portable de la maison pour qu'on reste en contact. Tu en as un chez toi?
Oui.
Alors prends-le, on en aura besoin.
Chapitre 9. Le fax. À 7h30, Roland me prend à la maison. Mes parents disparaissent au coin de la rue, direction l'aéroport, avec la mallette dans le coffre. Si papa savait. J'ai eu envie de tout lui révéler, mais je me suis retenu au dernier moment. Il faut faire comme prévu si nous voulons confondre Dumont et Bivaux.
Je te laisse à la banque, me dit Roland. Je dois aller chercher le courrier. Je reviens avant 9h et je te conduis au collège.
La banque est encore déserte. Seule, la secrétaire de direction est arrivée. J'entre dans son bureau, mon précieux sac serré contre moi.
Tu as gym aujourd'hui? Me demande-t-elle.
Oui, je vais le mettre dans le placard de papa, comme ça il ne vous gênera pas.
Comme tu veux, Jérôme.
Roland revient vers 9h-10, un sac de courrier à la main.
L'avion est en train de décoller, dit-il en entrant dans le bureau. Tes parents sont en route pour Bruxelles.
Tu es prêt, Jérôme?
C'est l'heure de partir.
Mais que fait Charlotte? Je suis sur le point d'aller chercher mon sac lorsque le téléphone sonne. Mylène décroche. Et après quelques secondes, répète pour confirmer qu'elle a saisi.
Le prof de gym est absent. Jérôme n'a pas cours.
Elle me tend le téléphone.
C'est pour toi, Jérôme.
Allô?
Jérôme, c'est moi. Bonne nouvelle. Le prof de gym est malade. Il n'y a pas cours ce matin.
Elle a bien compris, au moins.
Parfaitement.
Salut, et à tout à l'heure.
Pour l'instant, notre plan fonctionne. Je me tourne vers Roland, la mine réjouie.
Le prof de gym est absent.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Demande-t-il.
Heureusement, Mylène vient à mon secours.
Son prof est malade, ce n'est pas la peine de le conduire au collège pour qu'il reste en permanence.
J'enchaîne. J'irai à 2h.
Tes parents m'avaient dit...
Ils ne savaient pas que le prof serait absent, ou ils t'auraient demandé de me garder ici.
Bon, comme tu veux.
Je fais des pieds et des mains pour que Roland accepte de me laisser avec Mylène. Dumont ne va pas tarder à arriver.
Jérôme sent une vibration dans sa poche. C'est Charlotte qui l'appelle sur son portable.
Il court aux toilettes. Elle lui raconte que Dumont vient de sortir de chez lui et qu'elle le suit. Il s'est arrêté pour téléphoner d'une cabine. Quelques minutes plus tard, Dumont entre dans la banque, dit bonjour à Mylène et à Jérôme. Il attend un client qui a rendez-vous.
Dumont est en rendez-vous depuis une quinzaine de minutes quand le fax du secrétariat se met en marche. Il imprime avec un son feutré. La secrétaire prend la feuille et sourit.
Tiens, c'est amusant. Voilà qu'on envoie des dessins à Monsieur Dumont.
Faites voir.
Tu es bien curieux, réprimande-t-elle dans un sourire, sans pour autant me montrer le dessin en question.
Je n'insiste pas. Elle frappe à la porte du bureau de Dumont et lui donne le fax. Il est peut-être en rapport avec l'affaire. Mylène n'a même pas repris sa place devant son ordinateur que Dumont jaillit de son bureau, le visage défait.
« Il faut que je m'absente quelques minutes. Faites patienter, monsieur. »
Il désigne le client resté assis dans son bureau, puis dévale l'escalier comme s'il avait la police aux fesses.
Jérôme pense que le fax est resté dans le bureau. Le client n'a pas le temps d'attendre. Il téléphonera plus tard. Mylène le note sur un post-it. Tout naturellement, Jérôme propose de porter le message sur la table de Dumont. Jérôme est maintenant dans le bureau de Dumont.
Je soulève machinalement le sous-main et aperçois un fax. Le fax. Plusieurs dessins occupent la page, un peu comme une BD. Dessin numéro 1, un bonhomme au pied d'une silhouette d'avion remet un rectangle noir à un autre bonhomme.
Dessin numéro 2. Un personnage devant le rectangle ouvert. Dedans, des catalogues où sont griffonnés des noms de sociétés de vente par correspondance. Dessin numéro 3. Le personnage semble très en colère. Des éclairs éclatent au-dessus de sa tête. Enfin, un panneau d'affichage porte le score 15-0. En dessous, une légende. L'argent n'est pas là, la facture va être lourde. Voilà une preuve qui disculpe papa. Elle est fragile, mais elle existe. Je mets le précieux papier à l'intérieur d'une enveloppe que je glisse sous mon sweat. Maintenant, il va falloir improviser. Je me dirige vers les toilettes pour appeler Charlotte quand mon portable se met à vibrer.
Allô, Charlotte ? Tu tombes bien, parce que j'ai...
Tu me raconteras ça plus tard. Rejoins-moi vite à l'église Saint-Pierre, c'est urgent.
Qu'est-ce qui se passe ?
Je t'expliquerai. Viens tout de suite et entre par la porte de droite.
Et elle raccroche. Je reste figé quelques instants, puis jaillis des toilettes et gagne à toute vitesse la porte d'entrée. Je m'élance sitôt dehors. En courant à un bon rythme, il me faut moins de 10 minutes pour rejoindre Charlotte.
Chapitre 10. Contrat mortel. Jérôme retrouve Charlotte à l'église. Elle lui dit qu'elle attendait devant la banque quand Dumont et Bivot sont sortis en courant. En montant dans la voiture de Bivot, Dumont a crié « À l'église Saint-Pierre, vite !» Les deux hommes sont l'un à côté de l'autre et font semblant de prier. Un homme en blouson de cuir et pantalon de motard entre. Il retire son casque et se dirige vers eux. Il se met à genoux. Charlotte et Jérôme entendent Dumont dire qu'il s'agit d'éliminer un gêneur le soir même à l'aéroport quand deux passagers de l'avion de Bruxelles rejoindront leur voiture, une Clio blanche accidentée. L'homme demande. Le client, Dumont le décrit. Roux, 1m75. Donne un tract électoral avec une photo et précise qu'il a noté au dos le numéro de la voiture. Charlotte et Jérôme ont compris qu'on veut tuer leur père. Comment faire pour le sauver, le disculper et confondre Dumont?
Nous réfléchissons tout en contournant l'église. Soudain, je m'arrête. Je plonge la main sous mon sweat. Tiens, Charlotte, prends cette enveloppe. Moi, je fonce à la banque récupérer mon sac de sport. Voilà ce qu'on va faire. Il faut que la police arrête papa à la descente de l'avion. C'est le meilleur moyen de le protéger.
Je sors de la banque, mon sac à la main. Je m'approche de deux policiers qui patrouillent en ville. Je vérifie qu'ils portent bien l'écusson de la police nationale. Ils sont là, à moins d'un mètre de moi. Je me concentre, puis je me lance avec une violence que je ne me connaissais pas. Je donne un coup de pied dans le mollet d'un policier. Il hurle de douleur. Son collègue se retourne, me regarde, incrédule.
Je me sauve mollement. Le sac me gêne. Le policier me poursuit. L'autre s'est remis et arrive à sa hauteur. Il m'attrape. Je me débats tout en les insultant avec les mots les plus grossiers que je connaisse. Une casquette roule sur le trottoir. Il ne leur faut que quelques secondes pour m'immobiliser.
Il est fou ce gosse. Allez, on l'embarque.
Tandis que le plus costaud me ceinture, le second ramasse sa casquette en se frottant les tibias.
La première manche est gagnée. Mais je ne m'en réjouis pas.
Chapitre 11. L'arrestation. Jérôme est angoissé. Il attend depuis des heures dans le commissariat. Est-ce que la police a pu arrêter son père avant que le tueur ait eu le temps d'agir? Tout à coup, il y a de l'agitation dans le couloir. Il entend la voix de son père. Monsieur Forestier veut savoir pourquoi on l'a arrêté à sa descente d'avion. Le commissaire lui dit que ce n'est pas le plus important et il le conduit à Jérôme. Le commissaire explique alors à Monsieur Forestier que son fils a insulté et frappé des policiers. Puis, il lui montre le sac de sport rempli de liasses de billets. Jérôme voit que son père est terriblement en colère.
« Tu peux m'expliquer, Jérôme ?»«
Il y a 1 million là-dedans, dis-je. »«
Qu'est-ce que tu racontes ?»«
La vérité, papa. La stricte vérité. Et j'explique tout ce que je sais. »
Une heure plus tard, Dumont est là. Il insulte M. Forestier. Lui reproche d'avoir détourné 1 million d'euros pour sa campagne électorale. Monsieur Forestier reste calme. Il explique que Dumont a mis l'argent dans la mallette sans rien lui dire et qu'il lui a demandé de la remettre à un sbire de l'équipe qui doit jouer contre l'OR. Dumont voulait acheter les joueurs adverses. Soudain, un policier annonce une visite intéressante.
Et dans la seconde qui suit, Charlotte apparaît, souriante. Maman dit d'une voix incroyablement douce : «
Charlotte, qu'est-ce que tu fais là ?
Malgré moi, la question jaillit de ma bouche. Tu la connais ? Maman n'est pas surprise. Visiblement, elle sait qui est Charlotte.
Charlotte !
Rugit Dumont. Il nous dévisage à tour de rôle, ma sœur et moi, et hurle en direction de papa.
Et puis voilà le père ! C'est bien la gamine que tu as faite à Claire Monestier, notre ancienne secrétaire de direction, une fille adultérine ! Adultérine ! Ah, elle est belle, la morale du candidat à la mairie de Roissy !
Charlotte ne s'est toujours pas départie de son sourire. Elle glisse la main dans la poche intérieure gauche de son blouson et en sort l'enveloppe qui contient le fax. « Tenez, monsieur le commissaire, ce qu'il y a dans cette enveloppe devrait vous intéresser. Et s'il vous faut quelques explications pour comprendre le sens des dessins, monsieur Dumont vous les donnera, avec notre aide, celle de Jérôme et la mienne, si c'est nécessaire. »
Chapitre 12. Plus tard. 1er septembre. C'est la fête. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Mon père, maire de Roissy depuis quelques mois, célèbre son élection après avoir assuré le bon démarrage de son administration. La fête se déroule dans notre jardin, où plusieurs tentes marabouts sont dressées. À l'ombre de leurs toiles bleues, le buffet s'offre aux invités. Charlotte et moi allons d'un groupe à l'autre. Tout le monde nous appelle les jumeaux.
« Super !» s'exclame Charlotte. « Tu as un bel anniversaire. Et moi, je fais la fête avec mon frère pour la première fois. »
Charlotte regarde en direction de sa mère. Vêtue d'une robe bleu ciel, elle parle avec maman. Elle se tourne vers nous et nous sourit.
« C'est bien de les voir ensemble », souffle Claire Monestier.
« Plus que bien, formidable », renchérit maman.
Madame Forestier connaissait l'existence de Charlotte depuis le début. Alors qu'elle attendait la naissance de Jérôme, son mari avait rencontré Claire Monestier par hasard dans la rue. Claire était enceinte. Elle ne pouvait pas se marier avec M. Forestier, mais elle désirait Charlotte, le dernier cadeau qu'il lui avait fait avant leur séparation.
Avant d'être mis en examen et emprisonné, Dumont et Bivot avaient révélé l'existence de Charlotte aux journaux. L'affaire avait fait grand bruit. Immédiatement, papa avait envisagé de retirer sa candidature, préférant de beaucoup la tranquillité de sa fille retrouvée à la place de mère. Mais ce qui aurait dû se retourner contre lui avait finalement joué en sa faveur. Il avait été élu maire dès le premier tour avec près de 60% des voix.
1er septembre, c'est la fête. Tous nos amis et parents ont été invités. Charlotte et moi avons exigé que notre ancienne prof principale soit présente. La jeune femme se tient un peu à l'écart. Elle ne connaît personne. Nous l'abordons. Madame, on voulait vous remercier.
Me remercier ? Mais pourquoi ? C'est plutôt à moi de le faire, c'est très gentil de m'avoir invité.
« Il y a une raison particulière, » commence Charlotte. Et je poursuis. « Vous vous souvenez du jour de la rentrée ? Vous nous aviez pris pour des jumeaux. Sans vous, peut-être qu'on n'aurait jamais su qu'on était frères et sœurs. »